Merci Edouard. Ce qu'Edouard a oublié à dire, c'est que moi j'avais 11 ans quand j'ai fréquenté Edouard. Il dit que ça fait très longtemps qu'on se connaît, donc j'avais 11 ans, n'est-ce pas Edouard? Non, mais bon, non, pas tout à fait comme ça. Mais pour moi c'est vraiment un privilège d'être ici. Comme je vous ai dit hier soir, que ce sujet, la joie, c'est quelque chose que pour ma femme et moi, on a vécu, cette lutte. Cette lutte d'avoir la joie pendant la maladie de notre enfant. De quelque part, moi je n'ai pas envie toujours pendant ces messages de vous donner que des illustrations de ce que j'ai vécu. Mais honnêtement, de l'autre côté, j'ai envie d'en parler tout le temps. Parce que là, par la maladie de mon enfant, Dieu il a transformé ma vie. Et donc, je remercie le Seigneur sans cesse qu'il a donné cette maladie à mon enfant. Parce qu'avant, en fait, ma femme et moi, on disait toujours, on accepte la volonté de Dieu, on aime le Seigneur, mais on n'avait pas vraiment la satisfaction de tout accepter. On avait dit, oui, j'accepte la volonté de Dieu. Mais on avait du mal à dire, j'accepte la volonté de Dieu et ce qu'il me demande, avec joie. Et ça change tout. Mais bon, on va toucher un peu ça dans quelques instants. Juste encore une petite autre chose, j'ai cité là hier soir un peu ce pasteur qui a écrit ce livre que j'ai trouvé. Je les ai toujours cité un nom parce que, bon, je cite le nom, il s'appelle John Piper. Il est traduit en français, je crois qu'il y a 3-4 livres qui sont vendus à la Maison de la Bible. On est en train d'enregistrer les choses, donc... Je vais être très diplomate ce que je vais dire, mais moi j'ai quelques personnes de ma famille qui sont dans les églises qui sont associées avec cet homme. J'apprécie énormément et la connaissance de la Bible et la sagesse que Dieu a donné cet homme m'a beaucoup aidé pendant un moment de crise. Mais je me trouve aussi en opposition de beaucoup d'autres de ses idées. Donc je laisse les choses uniquement là. Si après vous voulez vraiment savoir. Parce que bon, peut-être vous aimez beaucoup cet homme, vous n'avez aucune idée de cet homme. C'est un homme. C'est un pécheur qui est sauvé par la grâce de Dieu. Et Dieu aussi a donné ce pasteur la possibilité à comprendre la Bible. Mais bon, parfois on peut trouver des très bonnes choses. Et ensuite, quand on gratte un peu plus, on n'est pas tout à fait toujours satisfait avec d'autres choses qu'on voit. Mais bon, juste ça c'est pour votre connaissance. Comme je vous ai dit... Cet après-midi, on va commencer avec 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, je vous rappelle de nouveau, quand on parle de la joie, on parle d'un sentiment. Et c'est là où c'est parfois un peu compliqué. C'est un sentiment. Donc regardez, ben voilà, soyez triste. Non mais allez-y, hein. Je veux voir des gens qui sont tristes, allez-y. Et vous dites, mais Marc... Je peux penser à mon chien qui est mort, mais bon, ça ne me fait pas trop. Et donc, c'est un peu compliqué d'obliger les gens d'avoir les sentiments, mais ici, on est commandé de soyez toujours joyeux. Donc, c'est quoi ça? Mais c'est un sentiment, mais c'est un sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective. Donc, c'est-à-dire que je suis satisfait de ce que je vois devant moi. Et j'ai ce contentement, cette joie, cette satisfaction à cause des choses qui sont dans ma vie et les choses qui sont autour de moi. Donc, je suis entièrement persuadé qu'il y a deux façons à attaquer ce sujet de la joie et surtout d'avoir cette joie. D'abord, 1 Jean chapitre 1, en fait, on va commencer quand même avec verset 1. C'est bien d'avoir le contexte. Verset 1 qui dit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Mais verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Et voilà verset 4. « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Et ici, c'est le mot le plus employé dans le Nouveau Testament pour la joie. Mais juste, moi je vais prendre juste quelques secondes, je ne prends pas beaucoup de temps, mais d'analyser surtout le verset 1, parce qu'ensuite, le verset 1, ça touche directement les choses qu'on voit dans le verset 4. Ici, on a l'apôtre Jean qui dit « ceux qui étaient dès le commencement ». Et on a ici Jean. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 1, verset 1 ? Au début, au commencement, était la parole, et la parole est Dieu. Donc il parle ici de Jésus. Ceux qui étaient dès le commencement, Jésus. Et ensuite il dit, ce que nous avons entendu, le mot entendu, c'est simplement là, être doté de la faculté d'entendre, c'est je peux entendre ce que Jésus a dit. Il y a quand même une chose qui est vraiment essentielle dans ce passage. Il y a un aspect de la langue française, et c'est le seul aspect de la langue française qui me rend fou. C'est une toute petite chose, c'est la grammaire française. À part ça, ben, j'ai aucun problème. Bon, ça c'est pas tout à fait vrai, mais bon, j'ai quelques petits autres problèmes. Mais quand même, ça compte pour quelque chose. Si j'ai dit j'ai mangé, ça veut dire que sûrement j'ai plus faim, j'ai mangé. Et donc, la grammaire, ça nous explique beaucoup de choses. Ici, on voit quelque chose de très intéressant. Bon, ça ne se voit pas. Ici, on voit en passé composé, nous avons entendu. Mais Jean, quand il a écrit ça, il a employé un temps qui s'appelle le temps parfait. Et le temps parfait, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais qui dure aujourd'hui. Donc, je suis né. On dit, oui, bien. Mais ça porte des effets pour moi aujourd'hui. Hein. Même plus que ça. Je suis marié. Et j'ai parlé avec ma femme. 17 juin 89. Bon, on a vérifié les dates entre nous deux. Moi, j'étais sûr, c'est pas le 19. Marc, arrête. Ok, c'est 17. Le 17 juin, je me suis marié avec ma femme. 1989. À ce jour-là, j'ai dit à ma femme, je t'aime. Mais c'est suffisant ? C'est juste ce jour-là, et chaque fois qu'elle veut un peu d'affection, chaque fois qu'elle veut, elle veut être rassurée, elle veut dire, mais Denise, tu vois, c'est la date, tu vois, j'ai les photos, j'ai la preuve, j'y étais. Non, ça c'est où le mariage a commencé. Mais cette idée du temps parfait, c'est quelque chose qui continue, et les résultats sont même plus forts aujourd'hui dans le présent. Donc, il dit ça, mais ce que nous avons entendu, mais Jean, il veut dire quoi là ? J'ai entendu Jésus, mais quand je ferme mes yeux, ah, et les paroles sont toujours là. Et c'est fort, hein. Alors moi, je me souviens quand Jésus a dit. Et ici, on a un témoin. On a quelqu'un qui a passé des jours, des semaines, des mois et des années avec Jésus. Et quand il dit ce que nous avons entendu, il veut dire... J'ai les paroles qui restent dans ma tête. Je me souviens de ce que Jésus a dit. Ensuite, il dit, et ce que nous avons vu de nos yeux. Pareil, c'est simplement l'idée, voir avec les yeux. Ce n'est pas un mot compliqué. Mais aussi encore dans le temps parfait. Ça veut dire encore, quand je ferme mes yeux, oh, il a marché sur l'eau. Incroyable ça. Oh, mais je ferme mes yeux et je n'ai pas besoin d'une photo, je n'ai pas besoin d'une vidéo. J'ai l'image gravée dans la tête. Moi, j'ai entendu Jésus. J'ai vu Jésus. Et les choses-là restent. Ensuite, il dit, et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Et là, il est obligé à changer la grammaire. Il est obligé à changer le temps. Parce qu'il dit, ce que nous avons contemplé. L'idée quand il dit contempler, c'est regarder attentivement ou regarder pour examiner. Et là, le problème, il ne peut pas dire que ça c'est dans le temps parfait parce que Jésus n'est plus là. Mais il dit ensuite, moi j'ai vu Jésus, mais moi j'ai pris le temps pour examiner la vie de Jésus. J'ai contemplé, j'ai vu Jésus et ça a provoqué des pensées dans ma tête. Et forcément ensuite, c'est aussi du passé, nos mains ont touché. Donc, j'ai serré la main de Jésus. Jésus, il a touché mon épaule. Moi, j'ai touché la main de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on a là? On a un homme qui a vu Jésus, qui a entendu Jésus, qui a contemplé Jésus. Il a dans sa mémoire les choses qui sont toujours là. Et cet homme, guidé par le Saint-Esprit, il va écrire un livre. Une lettre plutôt. Jean. Ensuite, ce qu'on a, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Mais pourquoi Jean dans ses pensées, mais dirigé par le Saint-Esprit. Pourquoi il a mis le stylo sur le papier? Pourquoi il a mis l'encre sur le papier là? Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. On a la Bible pour plusieurs choses, mais parmi les choses, moi j'ai cette Bible, moi j'ai ce livre dans mes mains aujourd'hui, que je peux trouver un sentiment de plénitude qui affecte mon être entier. Et c'est le moment quand mes aspirations, mes ambitions, mes désirs et mes rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective, c'est ce que la Bible peut me faire. Dans ce livre, dans la Bible, il existe les paroles, il existe des idées, il existe des doctrines, il existe des enseignements qui sont capables à combler toutes mes ambitions, aspirations, désirs, rêves, tout ce que je veux pour être satisfait. La Bible contient ces idées-là. Écoutez, il y a énormément de versets. Et là, je ne vous demande pas de chercher ces versets dans vos Bibles, je vais lire ça assez rapidement, mais on commence tout simplement avec le psaume 97:11. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Vous suivez la parole de Dieu, votre cœur est droit, vous avez la joie. Le psaume 68:3. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. D'allégresse, la joie, quand on est juste. Proverbe 10:28. L'attente des justes n'est que joie. On est juste, on a la joie. Jérémie 15:16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. Proverbe 29:6. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Dans le psaume 19:8, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux. Dans les psaumes 32:11, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Et bon, je prends pas la moi j'ai tout un paquet de versets qui parlent justement de ça. Mais ensuite, il y a un verset qui m'a... Bon, c'est un verset qui me plaît beaucoup, mais quand même, il y a un petit truc qui est bizarre là. Romains chapitre 7, verset 22. L'apôtre Paul dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu. » Marc, pourquoi ça? C'est bizarre. Le mot plaisir là, la racine de ce mot, c'est le mot édoné. C'est notre mot hédoniste. Et le mot édoné, cette idée édoniste, ça se trouve 6 fois dans le Nouveau Testament, et chaque fois c'est archi négatif. Par exemple, 2 fois dans Jacques chapitre 4, ça parle de vos passions. Mais ça ne parle pas dans le bon sens, vos passions qui font quoi? Les luttes, les querelles, les problèmes là. Dans Luc... Dans Luc, quelque part, je n'ai même pas noté, mais c'est la parabole du semeur, ça parle du fait qu'il y ait des passions, des choses qui attirent, qui tuent la parole. Et donc, ce n'est pas une bonne chose, là, sauf ici, Paul dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu. Il prend littéralement son plaisir, sa satisfaction dans les commandements de Dieu. Chers amis, d'abord, vous cherchez la joie, la satisfaction. Cherchez votre satisfaction dans les commandements de Dieu, dans les... Ça sent exactement comme mon portable, et j'ai eu un moment de crise là. C'est ma femme qui m'appelle. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, quand on suit ses paroles ici, si Dieu dit... Et Dieu ne dit pas cette chose, mais si on trouve un verset dans la Bible qui dit « Chaque matin, quand vous vous levez, touchez votre nez, selon le Seigneur. » On ne sait pas pourquoi, bon, chaque matin, on est comme ça. Pourquoi? Pour notre satisfaction, pour notre joie. Je viens de vous donner une idée qui est très simple. Hein. Dieu dit « Il faut faire ces choses, il faut obéir ses commandements. » Et là, il y aura la joie, la satisfaction. Facile, n'est-ce pas? Trouvez avec moi Romains chapitre 12, verset 14. Voilà un commandement de Dieu. Bénissez ceux qui vous, Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Le mot bénissez, ça vient d'un mot composé en grec, c'est le mot logos, parole, et le mot pour grec qui veut dire bien. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Vous êtes persécuté, vous êtes troublé, il y a quelqu'un qui commence à vous mettre la pression. La Bible dit, il faut employer les bénédictions, qui sont quoi? Dire du bien de celui qui vous attaque. Avec plein de satisfaction. C'est très facile, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui dit du mal de moi, et moi, pour trouver ma satisfaction, je vais dire du bien de lui. Voilà pourquoi parfois cette joie est tellement difficile d'avoir. Parce que quand quelqu'un dit du mal de moi, vous savez ce que je vais faire moi? Je ne vais pas vous dire. Je suis pasteur, donc je ne peux pas exposer ces types. Non, mais bon, à la limite de relancer la parole, mais franchement, moi je dis toujours, moi je suis très content que Dieu ne donne pas la possibilité à lire mes pensées. À vous tous. Hein. Moi, je suis très content que Dieu n'a pas donné un appareil qui branche dans l'oreille, qui projette mes pensées sur un écran. Ça sera très, très, très difficile. Quand même, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a quelqu'un qui m'embête, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Mais pourquoi? Au cœur de ce sujet, à la base de cette idée, pourquoi il faut que je dise quelque chose du bien de ceux qui me persécutent? Pour ma satisfaction, que je sois dans la joie, parce que Dieu dit quand je suis sa parole, il y a trop de versets dans les psaumes, même dans le proverbe, il y a un piège dans le péché de le méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Chers amis, je vous promets, si vous suivez la parole de Dieu, il y aura une satisfaction. Je vais vous donner juste vite fait deux, trois autres exemples. Mais c'est des choses qui ne sont pas compliquées, mais moi je suis convaincu, un des problèmes que moi j'ai eu depuis quelques temps, avant que j'ai commencé à étudier cette idée de la joie, c'est que je faisais beaucoup de choses purement par obligation. Et moi je ne suis pas contre l'obligation. Parfois on fait certaines choses simplement parce que c'est indiqué, c'est marqué. Mais les choses sont beaucoup, beaucoup plus faciles si on fait ces choses avec la joie. Ben, je commence avec ce qui est honnêtement le plus compliqué, d'accord ? Marie, aimez vos femmes. Vous dites, ah oui, et toutes les femmes. Oh Marc, ça c'est très terriblement difficile. Surtout quand on voit la suite, femmes, soyez soumises. Oh, j'espère que ton amour n'est pas trop compliqué. Moi, je suis convaincu, quand la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, ça c'est nettement plus compliqué et difficile que femmes, soyez soumises. Je vous dis pourquoi. Quelle est la suite? Marie, aimez vos femmes. Quel est cet amour-là? Agapé, l'amour qui donne et qui n'entend rien de retour. Je ne rigole pas quand je dis, avec ma femme et moi, je suis à peu près dans le 80-85% avec cette idée. On avance. Mais franchement, si je donne et je donne et je donne à ma femme et je n'ai rien de retour, même pas un merci, rien, même pas un sourire, ça ne me plaît pas de tout. Donc, déjà, c'est une lutte. Mais ensuite, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme, dans la même façon. J'ai pris le temps juste pour voir un peu ce mot, comme Christ. C'est un mot qui se trouve 188 fois dans la Bible et qui est traduit selon, suivant, conforme, de même que, aussi bien que, de la même manière, d'après ressembler. Donc, tout simplement, Dieu me dit, Marc, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Dans la même façon, qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Ben, la suite des versets là. Et qui s'est donné pour elle. Donc Dieu, il me demande tout simplement à faire tout ce qui, pour ma femme, en commençant avec la toute petite chose quelle est la plus petite chose que je peux faire pour ma femme? Je vais ramasser mes chaussettes. Hein. Ça, c'est une lutte horrible chez moi, mais bon. Je commence là. Il me demande simplement d'aller jusque la mort pour ma femme. Et ensuite, il faut que je fasse toutes ces autres choses-là. Toujours en regardant l'intérêt de ma femme avant mon propre intérêt. Et vous commencez à dire, c'est difficile pour toi le mari. Quel travail terrible. Non, mais parfois on est égoïste. Parfois on lutte. Mais la Bible me dit, il faut que j'aime ma femme comme Christ aimait l'Église. Et ensuite, la Bible dit que parmi mon travail pour ma femme, c'est pour aider ma femme d'être prête pour aller au ciel. Vous, vous voyez dans Éphésiens chapitre 5, 25 et les versets suivants, la Bible est très très claire. Parmi les responsabilités du mari, c'est d'aider sa femme pour être prête, pour être de plus en plus sanctifiée, pour aller au ciel. Et je commence à regarder tout cela, et je peux me dire, oh, ça c'est un sacré boulot, hein, ça c'est, ce n'est pas facile de faire tout ça. Sauf, Dieu me donne une promesse dans sa parole, quand je suis ses commandements, quand j'ai la Bible là, selon 1 Jean chapitre 1 verset 4, Dieu m'a donné ses paroles afin que ma joie soit parfaite. Mais maintenant les femmes, soyez soumises. Alors, déjà, moi je suis convaincu, les choses les plus clés là, c'est dans 1 Pierre chapitre 3. Quand on regarde dans les détails, il me semble que parmi les choses les plus essentielles pour la soumission, c'est le fait que Sarah, elle a écouté son mari et elle a montré du respect. Donc déjà, il y a ça qui est dedans. Mais si aujourd'hui, vous luttez avec cette idée de la soumission, vous savez pourquoi Dieu demande à la femme d'être soumise? Est-ce parce qu'il n'avait pas d'autre chose à faire, parce qu'il n'aimait pas trop les femmes? Non, c'est parce qu'il cherchait la joie parfaite de la femme. Donc une femme qui veut chercher sa joie dans la soumission. Un mari qui veut chercher sa joie, c'est dans l'amour pour sa femme. En 30 secondes, je compte 5 ou 6 qui vont beaucoup aimer ce verset-là. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Et il y a quelqu'un qui sait, Éphésiens 6, 1, c'est quoi? Tu le sais? Enfants, obéissez à vos parents. Parfois, je peux être très méchant. Non, mais bon, c'est une lutte, hein, parfois, et il faut que je lutte avec ça. Hier soir, dans la voiture, je suis tourné vers Jana. Ah oui, elle est là. Et je dis, Jana, est-ce que tu trouves toujours ta plaisir, ta joie, ta satisfaction avec l'obéissance à tes parents? Elle était quand même très honnête, hein, donc bravo Ed, au moins elle a la victoire là. Elle a dit, non, parfois c'est vraiment pas la joie d'être obéissante à mes parents. Ok, d'accord, je comprends. Mais il faut simplement qu'on change nos mentalités. Donc voilà ce que j'ai dit à Jana. Jana, j'ai dit, ta maman, elle te demande à qu'est-ce que j'ai demandé, Jana? Puis maintenant, elle va faire, je sais pas. Ah voilà, elle va faire le ménage dans sa chambre. C'est ça que sa maman demande. Elle va faire ça avec la satisfaction de son âme ou non? Elle a 13 ans, donc c'est pas toujours la joie. Hein? Sauf, hein, je vais vous montrer pourquoi il faut qu'on change notre mentalité. Elle fait avec joie en sachant. Quand je fais ça avec joie, maman, elle est contente. Et quand maman, elle est contente, je suis aussi contente. Et j'ai la satisfaction de mon âme. Si aujourd'hui, vous luttez justement avec ces idées, être soumise, mon œil, hein. Franchement, hein, 2009, vous voyez, pour l'apôtre Paul, ça va, mais aujourd'hui, hein, on sait autre chose. Mais pourquoi il faut être soumise à son mari? Pourquoi il faut aimer sa femme? Pourquoi il faut bénir ceux qui me persécutent? Tout simplement parce que Dieu, il a envie, il a un désir de vous donner votre satisfaction. Et Dieu ne vous commande, il ne vous demande jamais à faire quelque chose qui est pénible. Il vous demande toujours à faire quelque chose qui va vous donner la satisfaction de votre âme. Même quand la tâche est un peu compliquée pour commencer, il donne sa parole, il donne dans sa parole la possibilité d'avoir la joie parfaite, mais c'est en gardant ses commandements. Donc, bon, on va passer juste dans quelques secondes au deuxième sujet, mais moi je vous demande d'abord, avez-vous la satisfaction de votre âme et la joie dans votre vie par votre obéissance aux commandements de Dieu? À mon avis, c'est une question qui mérite d'être posée dans le cerveau de chaque chrétien. Suis-je content, joyeux, d'obéir la parole de Dieu? Et sinon, ben voilà, il faut lutter d'abord aux genoux et ensuite par le renouvellement de votre intelligence. Donc, on voit quand même la joie du Seigneur dans les commandements. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est la joie dans, et la volonté de Dieu. Il y a plusieurs possibilités, il y a énormément de versets qui parlent un peu de cette idée-là. Mais moi, je vais commencer avec vous dans Genèse chapitre 50 et verset 20. Et on arrive pas simplement vers la fin de ce livre Genèse, mais aussi on arrive au moment où Joseph il va mourir. Et donc, à cet instant-là, il a eu la possibilité d'adresser ses frères. Donc, on parle des mêmes frères qui l'ont vendu en esclavage. Vous imaginez des réunions de famille comme ça, avec vos frères autour de la table, et vous regardez chacun, et c'était toi, et toi, et toi, et chacun qui m'a vendu en esclavage. Bravo, hein? Bien joué, les garçons. Et qu'est-ce que Joseph, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Genèse chapitre 50, verset 19, Joseph leur dit, « Soyez sans crainte. » Donc déjà, ils étaient troublés. Déjà, ils n'avaient pas la satisfaction de l'âme. Ils n'avaient pas la joie. « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entraînerai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. » Il y a un détail, il y a un point là que j'aimerais mettre l'accent, et ensuite je crois que ça va être même plus clair. Le verset 20, quand il dit « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Je ne suis pas et je ne serai jamais à l'auteur de Dr. Second, d'accord ? C'est lui qui a traduit cette Bible que j'ai ici dans mes mains, la Bible seconde. Mais il s'est trompé là. C'est net et clair. Il y a un petit problème. Parce que là, il dit, vous avez médité de me faire du mal. Ok. Si vous prenez même la Bible online, que ça, c'est même sur l'Internet, c'est gratuit maintenant. Vous pouvez chercher les mots dans les dictionnaires français-grec, français-hébreu. Et là, on clique sur le mot et ça cite un mot hébreu. Et donc, ça dit, vous avez médité de me faire du mal. Et ensuite, quand vous voyez, Dieu l'a changé. Bon, et moi, j'ai vérifié. Vous voyez, avec la Bible online, chaque mot en hébreu est donné un numéro. Et ce numéro correspond avec une définition. Vous cliquez de nouveau et vous savez qu'est-ce qui se passe là. Vous avez le même mot qui est traduit « médité ». Et pour moi, ça me pose un problème. Qu'il a traduit un mot « médité » et l'autre mot « changé ». Et franchement, moi je suis convaincu, il s'est trompé. Parce que ce mot-là qui est traduit « méditer », c'est un mot qui se trouve pas mal de fois dans l'Ancien Testament, qui est aussi traduit avec l'idée « penser, projeter, calculer, inventer, pour faire un plan ». Même c'est traduit quelque part avec l'idée de « comploter ». Mais nous, on va rester simplement avec l'idée de faire un plan, planifier. Et ici, ça dit « vous avez fait un plan ». Vous avez fait un complot, si on veut, de me faire du mal. D'accord ? Là, ça ne pose aucun problème. Là, on a des frères qui sont ensemble, mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Ben, il nous embête, il nous énerve. Ah ben, il y avait même quelques-uns qui l'ont dit, on va le tuer. Hein, ouais. Ah non, non, non. En vrai, non, non, on va le vendre en esclavage, comme ça c'est terminé. Et Dieu, ah mais là le problème, Dieu n'a rien changé. Dieu a médité, Dieu a fait un plan, Dieu a comploté, bon, je sais pas si ça va pas trop cette idée-là, mais Dieu, il a eu un plan, pourquoi ? Pour faire le bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pendant des années, voilà comment j'ai vu ce verset. Il y avait les méchants, ces frères-là, ils ont fait quelque chose. Et on a Dieu au ciel, qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Ah, mais là, je n'accepte pas. Non, non, c'est pas bien ça. Là, il faut que je fasse quelque chose pour changer ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, il faut que je vous dise que Dieu, il était surpris. Il était même choqué. Oh, moi, je ne voyais pas ça. Oh, non, 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 c'est pas dans mon plan. Moi, je n'ai aucune envie d'avoir un Dieu comme ça. Franchement, un Dieu qui est choqué, un Dieu qui ne sait pas ce qui va se passer, pour moi, déjà, ce n'est pas un Dieu tout-puissant. Et ici, on voit la preuve que Dieu n'est pas comme ça. Les hommes, ils ont mis en place un plan. Ils voulaient faire quelque chose. Et Dieu, indépendant de leur volonté, indépendant de ces hommes-là, Dieu, il avait un autre plan. Et quand Joseph a expliqué ces choses-là, qu'est-ce qu'il a dit? Soyez donc sans crainte. Et avec ces paroles, il a consolé ses frères. Ils n'avaient plus de troubles, ils n'avaient plus de problèmes, ils ont trouvé la joie, la satisfaction, la consolation, le contentement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris. L'homme, il fait une chose, oui, d'accord, ça va. Mais il a d'autres choses à faire. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et ce plan est parfait, je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Encore, juste un autre exemple dans l'Ancien Testament, Job chapitre 1. Comment pouvons-nous parler de les épreuves sans voir l'exemple de Job? On commence avec Job chapitre 1. Et bon, là, simplement pour garder un peu notre temps, je commence juste avec le chapitre 1, verset 1, et ensuite on va voir d'autres choses. Mais ça dit, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et ensuite, ça explique de ce qu'il avait, ses enfants, ses possessions. Et ensuite, verset 6, on voit quelque chose qui me trouble énormément. Verset 6 qui dit, « Et les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, et c'est ça qui me trouble tellement, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» C'est horrible, on sait ce qui va se passer avec Job. Et c'est Dieu qui a dit, t'as vu le fidèle là, mon serviteur Job? C'est Dieu qui a commencé l'épreuve de Job. Et ensuite, c'est Dieu qui a donné la permission à Satan. Tu peux toucher ça, ses enfants, ses possessions, mais pas sa santé. Tu ne peux pas toucher la personne de Job. Deuxième fois, maintenant tu peux toucher même la santé de Job, mais pas sa vie. Franchement, chers amis, le diable n'a rien fait sans la permission de Dieu. D'accord? Là, c'est net et clair. C'est Dieu qui a dit d'abord, regarde mon serviteur, il est là. Tu l'as constaté. Deuxièmement, c'est Dieu qui a dit, tu fais ça, mais pas d'autre. Et regardez la fin de verset chapitre, la fin de chapitre 1. On commence verset 21. Job 1, 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai. Dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et là, ça me pose un énorme problème. Je regarde ce verset-là et j'ai envie à prendre Job un peu par la chemise. Mais écoute, hein, réveille-toi, tu dis l'Éternel. Moi, je sais Job, moi j'ai lu chapitre 1, verset 6, 7, 8. Je sais c'est le diable qui t'a touché. Je sais tu es attaqué par le diable. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Et regardez verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. On ne voit pas le mot joie, on ne voit pas l'idée de contentement, mais on sait que Job était intègre, juste, c'est un homme qui a trouvé sa satisfaction avec Dieu. Et quand Job était en pleine épreuve, quand Job était au milieu de feu, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel m'a donné, l'Éternel a ôté, béni soit l'Éternel. Et la Bible dit que Job n'a rien dit d'injuste. Regardez ensuite le verset 10. On commence verset 9, chapitre 2, excusez-moi. Chapitre 2, verset 10. Ou encore Job, il est frappé avec une maladie, il est frappé d'un ulcère. En fait, il va très très mal. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, d'abord, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Ne recevons de Dieu le bien et ne recevrions pas aussi le mal? Et qu'est-ce que la Bible dit? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous voyez ce que la Bible nous présente ici? Quand on est en plein centre de la volonté de Dieu, quand on est en train de vivre exactement l'épreuve que Dieu permet, même quand c'est une épreuve envoyée et directe de la main du diable, à ce moment-là, il faut qu'on soit comme Job et il faut qu'on dise, le Seigneur m'a donné, le Seigneur peut reprendre, et béni soit le nom du Seigneur, c'est lui qui est souverain, et c'est lui qui est ma satisfaction, et c'est lui qui est ma joie. Et à ce moment-là, la Bible dit, vous serez sans péché par vos propos. C'est simplement incroyable ce que la Bible dit là. Que si Dieu envoie... Mais le problème parfois avec cette idée, on avait trop lu le... Non, c'est pas vrai, on n'a pas trop lu, mais on avait trop absorbé l'histoire de Job, on oublie le sentiment. Job a perdu combien de ses enfants? Tous meurent. Et c'est une histoire vraie. On a devant nous un homme qui vient de perdre chacun de ses enfants. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu m'a donné. Selon la sagesse de Dieu, il a repris ses enfants. Béni soit Dieu. Et moi, je suis convaincu, la seule façon qu'un être humain peut dire ça, c'est tout simplement quand il a entièrement sa satisfaction dans le Seigneur. Quand il dit, ma joie, c'est tout simplement que je m'appartiens au Christ. Ma joie, c'est tout simplement au fait que Yahvé, le Dieu de la Bible, est le centre de ma vie. Tout ce qu'il me donne, c'est des cadeaux. Merci, j'aime tout ça. Ça, c'est vraiment, c'est des bénédictions. Mais si Dieu décide à reprendre une de ses bénédictions, peu importe, j'ai toujours celui qui m'a donné ces bénédictions. J'ai toujours le Seigneur. Je ne peux pas perdre celui qui compte le plus, le Seigneur Jésus. C'est facile, n'est-ce pas? Pourquoi encore que je peux tout dire comme ça? Regardez avec moi Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1, c'est très connu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bon, voilà. Ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voilà, jusque-là, très bien. Aucun problème. Même moi, je pense que c'est... Et, bon, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de ne pas vous présenter profondément ce verset-là, mais ça, c'est encore une autre clé pour la joie. C'est le renouvellement de notre intelligence. Mais de quelque part, c'est ça qu'on fait cet après-midi. On est en train de regarder certains passages de la Bible, et il se peut qu'avant, vous avez eu dans vos pensées, moi, j'ai la joie du Seigneur si j'ai la santé. Ben, si Dieu prend ma santé, franchement, hein, on ne sait pas. Moi, j'ai la joie du Seigneur si j'ai ce qu'il faut au niveau de l'argent. Là, si Dieu me donne de l'argent, ça, c'est bien. Dieu m'a donné mes enfants. Donc, si je garde mes enfants, il n'y a pas de problème, ni décès, ni maladie, ça va. Mais ici, ça parle du fait qu'on change, on transforme, on renouvelle l'intelligence, et ça commence à transformer la manière qu'on va voir la vie chrétienne. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Mais comment la Bible décrit la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Comprends le contexte aussi. Ici, ça parle du fait qu'il y a des choses que Dieu nous demande à faire. Mais ici, je pense aussi, on peut prendre ça dans un sens plus large. La volonté de Dieu complète. Tout ce que Dieu veut dans nos vies est quoi? La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Je vais vous donner un exemple de comment j'ai vécu ça et quelque chose qui m'a beaucoup aidé à comprendre cette idée. Je reprends un peu cette idée avec la maladie de ma fille. Comme je vous ai dit hier soir, on avait passé 9-10 mois, on n'avait aucune idée quelle était sa maladie, mais on était complètement dans l'ignorance. Même les médecins ne savaient pas. Et donc, ils ont pris... J'ai aucune idée combien de prises de sang. C'était inimaginable. Au point où avec ma fille qui avait à ce moment-là, elle avait à peine un an. On parle un peu un an, 13 mois. On était peut-être mi-juillet. L'instant même qu'elle voyait quelqu'un avec la blouse blanche, elle s'est mise à pleurer. Hein. Elle voyait une infirmière qui marchait dans la rue. Elle a craqué, elle hurlait. Donc un jour, bon, c'était, je crois, 2-3 fois par semaine, j'étais obligé d'amener ma fille au laboratoire, simplement pour les prises de sang. Et, bon, moi je voyais qu'elle ne supportait plus. Vraiment, elle était horrible. Hein. Elle bougeait partout, elle luttait. C'était 2003, plein juillet, mi-juillet, dans la salle là, oh, il a fait que 48, 50 degrés, mais avec la canicule, il faisait tellement chaud. Donc j'amène mon bébé là. C'était moi parce que ma femme, elle ne supportait plus. Elle disait non, j'y vais plus, je peux pas. Donc voilà, le papa costaud, il va y aller. J'amène ma fille, on met mon enfant sur la table là, et elle commence à bouger comme ça. Et là, l'infirmière, elle se tourne vers moi. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez contrôler votre enfant. Ah oui, madame, elle a 13 ans, donc je vais demander. Hein. S'il te plaît. Non, mais... Oui, madame, mais qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, je vais vous demander de piéger le cœur de votre enfant avec votre cœur. Donc, elle était là sur la table. J'ai mis le bras droit là, sur les deux bras comme ça. J'ai piégé les pieds, le cœur comme ça. Et je dis, oh, ça y est, c'est demi-trois, hein, laisse tomber Marc. Mais elle m'a regardé plein dans les yeux. Et bon, elle ne disait pas un mot, mais c'est moi je sais, elle me regardait comme, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais du mal, t'es fou. Et j'ai piégé son cœur comme ça. Et ils ont piqué le bras, et bah, elle hurlait, criait. Et vous savez, au moment même quand j'ai fait ça, j'avais une satisfaction complète. Vous savez pourquoi? Ils étaient en train de dépister la maladie de ma fille. C'était nécessaire de prendre les prises de sang pour analyser, pour voir qu'est-ce qu'elle avait. Et à ce moment-là, moi j'étais prêt à faire le maximum de mal à mon enfant. Vous savez pourquoi? Pour sauver sa vie. Hébreux chapitre 12, tout au long des versets 4, 5 jusqu'au 13, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et vous savez ce qui est bien avec ce mot châtiment? C'est pas tout à fait l'idée châtiment. C'est un mot qui, à la base, parle de pédio. C'est l'idée de pédagogue. C'est l'éducation. L'éducation de Dieu peut être parfois défaissée et parfois un mot d'encouragement. L'éducation de Dieu est parfois aussi douloureuse. Mais Dieu donne le châtiment à celui qu'il aime. Et chers amis, si vous cherchez la satisfaction, si vous cherchez entièrement votre joie, il faut apprendre d'accepter avec joie la volonté de Dieu. Parce que là, Dieu, il est en train de vous former. L'apôtre Paul, il a dit ça plein de fois dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. On voit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 8, ça parle de l'église de Macédoine. À travers les grandes épreuves, la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante. Mais ils sont fous ou quoi, hein? Pendant la grande épreuve, pendant leur pauvreté profonde, il y avait un débordement de joie, de satisfaction. Il existe toujours un petit problème avec cette idée-là. De trouver la joie à cause de la volonté de Dieu. Le gros problème, c'est voilà. Il existe des maladies. Cancer, c'est réel. Bon. Il existe des choses qui touchent notre santé et des choses qui terminent nos vies. Les viols sont réels. Ils existent dans notre monde. Les choses qui sont cassées, il y a malheureusement certains hommes qui touchent les enfants. Il existe des choses dans notre monde qui sont horribles. Et qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? Que j'ai la satisfaction quand j'avais 5 ans, quelqu'un m'a touché. L'homme a médité à faire du mal. Mais Dieu, il a médité. Il a mis un plan pour faire le bien. Demain matin, pendant l'école du dimanche, je ne sais pas si vous appelez ça l'école du dimanche, mais demain matin pour l'enseignement, moi je vais prendre justement Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien. Ou littéralement, Dieu fait toutes choses concourent au bien. Mais ce n'est pas de blabla, ce n'est pas de n'importe quoi dans la Bible. Dieu donne sa volonté parce que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Et peut-être pas au coup. Hein. Et peut-être il y a d'autres choses. Et justement là pour terminer, moi j'aimerais vous montrer quand même parfois comment il faut vivre la volonté de Dieu. Prenez avec moi Luc chapitre 22.